Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 76. Cet entretien est avec Jérôme Dancieux, co-président avec son frère et fondateur de Relax News, spécialisé dans la conception et création de contenu loisir Rich Media. Avec parmi leurs clients des grands groupes dans les médias ainsi que des marques, Relax News est au cœur du sujet du content marketing. Pour toute marque en particulier, il y a un vrai sujet. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être plus d'un an, qui s'appelle Jérôme Dancieux, qui est le PDG et fondateur de Relax News. Donc Jérôme, explique-nous un peu plus qui tu es, ce que tu fais.
Donc, je suis le coprésident de Relax News. On est deux frères à diriger Relax News, qui est une agence de presse spécialisée dans les loisirs. On est la première source d'informations en matière de loisirs. Notre métier, on est une source de conseils, on est une source de contenu et on est une source d'animation de contenu pour des médias, fortement à l'origine et de plus en plus pour des marques.
Alors quand tu dis numéro 1, ça veut dire, tu peux donner le contexte numéro 1?
En fait, on est les premiers à s'être positionnés sur cette thématique au niveau mondial. On est d'ailleurs la seule agence de notre domaine à être cotée en bourse sur Nice Alternext, sachant que dans ces acteurs-là, vous avez des grandes agences de presse mondiales comme AP, Reuters, Xinhua et une agence suédoise qui s'appelle TT Spectra.
Loisirs, pourquoi le domaine des loisirs?
Pour deux raisons très simples, c'est que d'abord il y a un mouvement de société au niveau mondial que de façon un peu barbare j'appelle la loisiration. C'est le fait que les gens consacrent de plus en plus de temps, d'argent à leurs loisirs et que ce phénomène sociétal a une traduction business très importante. Les médias mettent de plus en plus d'informations loisirs pour une raison à la fois de fidélisation de leur audience et de monétisation, et surtout aussi les marques ont besoin de loisirer de plus en plus leurs conversations avec leurs clients. La vieille publicité est morte. Et moi, je crois beaucoup au contentizing, cette idée d'utiliser le contenu comme levier central, noyau dur de la conversation. Et pour ça, si les marques continuent à parler seulement de leur nombril, elles vont emmerder tout le monde. Si à l'inverse, elles parlent de plus en plus des centres d'intérêt de leur cible, et le loisir, c'est quoi? C'est le bien-être, c'est la maison, c'est le divertissement, c'est le tourisme. Ça intéresse. Et à ce moment-là, chaque marque peut engager une conversation autour des centres d'intérêt de leur cible.
Alors, si on est en train de parler de ses loisirs, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu donner sens à sa marque. Comment tu réagis?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une marque qui parle que de son nombril emmerde tout le monde. Une marque qui, en revanche, va nourrir une relation avec son consommateur en lui donnant du sens à cette relation et à ce moment-là, en parlant des centres d'intérêt de la cible en question, ça change tout. Et c'est là où, pour moi, le triptyque majeur, c'est quel est le bon concept éditorial de la marque, le bon concept d'iconicity entre la marque, des contenus de qualité, c'est majeur. Les marques doivent être encore plus exigeantes que les médias en termes de qualité de contenu, donc doivent exiger la qualité média, et trois, la qualité de l'animation, parce que si tu restes au fond du cours et que tu ne vas pas au filet, il ne se passe rien.
Alors, explique-nous un peu plus, Jérôme, sur Relax News. Vous êtes structuré comment? Vous êtes présent où et combien de personnes est un peu sur l'entreprise?
Alors, on est une centaine de personnes. On est physiquement basé à Paris. On a, outre la centaine de personnes, on a plus de 300 personnes qui travaillent avec nous, notamment des journalistes, des community managers, qui sont installés à la fois en région en France, un peu partout dans le monde aussi. Donc, physiquement basé à Paris, mais avec une capacité de rayonnement international, d'autant plus qu'on a un partenariat mondial avec l'AFP, qui est l'une des trois agences de presse mondiales. Et donc, ce partenariat fait qu'on a une force de frappe qui est amplifiée par ce partenariat. On est organisé autour de quatre valeurs ajoutées. On est donc source de conseils en amont. Finalement, une marque ou un média qui veut accélérer en matière de contenu, il a besoin de mettre le pied sur le ballon et de se dire comment je vais réfléchir. Ensuite, on est une source de contenu. C'est comme chez ton tailleur. Il y a à la fois des contenus sur mesure ou des contenus prêts à porter. Il y a du on-demand chez nous, il y a un fil d'information, un peu sur le modèle Reuters ou AFP ou Bloomberg. Et puis, on est source d'animation. Exemple, Microsoft vient de nous choisir pour installer chez eux, Microsoft France, des équipes en régie éditoriale chez Microsoft. Et d'autre part, on fait de plus en plus aussi de community management pour un certain nombre de clients. Et puis, la colonne vertébrale de tout ça, c'est la techno qui fait qu'on est capable aujourd'hui de gérer des opérations clés en main pour nos clients.
Alors, super. Quand on parle des médias, parce qu'évidemment, tu fournis du contenu avec les marques, c'est en gros le truc, mais les médias, de l'autre côté, c'est quand même un peu le concurrent pour toi, ou comment est-ce que tu les considères ?
Non, les médias sont aujourd'hui encore nos premiers clients. Ça peut paraître paradoxal de voir que des médias, dont le contenu est le métier, s'appuie sur des gens comme nous pour avoir du contenu. Mais en même temps, c'est vieux comme l'histoire des médias. Les agences de presse, l'agence Havas, qui est l'ancêtre de l'AFP, a été la première agence de presse au monde. Parce que le boulot d'une agence de presse, c'est quoi ? C'est de faire gagner du temps, de l'argent et de l'impact à son client en étant spécialisé dans le domaine. Donc pourquoi est-ce que les médias nous confient un certain nombre de choses ? Par exemple, c'est nous qui gérons la régionalisation de Elle, qui est un enjeu stratégique majeur pour Elle, qui a des performances tout à fait bonnes dans ce domaine-là, avec plus de ventes au numéro, très bon score en abonnement, en pub. C'est parce que nos spécialités font que même les médias sont dans une logique d'externalisation, mais la télévision le fait depuis très longtemps avec des gens comme Endemol ou autres. Donc même les médias externalisent chez nous sur la base, je crois, de notre créativité, de notre légitimité et de la flexibilité qu'on apporte. Donc la base de notre légitimité, on l'a gagnée avec les médias. Et maintenant, on voit que les marques considèrent que le contenu est le nouvel or noir, ont besoin de plus en plus de contenu. Lisez d'ailleurs le rapport annuel de l'Assemblée générale de Danone, où ils expliquent l'évolution du changement de paradigme. Moins de publicité classique, plus de nouveaux médias et plus de contenu. Et à ce moment-là, notre ADN média et en même temps notre vision de la convergence entre la e-communication et l'e-commerce, le contenu et la communauté, j'appelle ça, pardon, c'est un autre barbarisme, l'e-communicity, qui est une tendance absolument majeure. Les marques veulent de plus en plus s'appuyer sur notre vision.
Okay. Alors, on va parler des marques. Est-ce que vous avez comme slogan de générer, monétiser, fidéliser les audiences médias pour les marques ? Donne-nous un exemple ou deux exemples qui sont frappants où les marques ont utilisé vos services.
Deux exemples. D'abord, le plus paradoxal, un hôtel. Les hôteliers sont des toutes petites entreprises qui ont à la fois été bouleversées par la montée en puissance de l'Internet. Positivement, c'est leur apporter des clients, et un peu négativement, parce qu'ils sont devenus tous de plus en plus dépendants des fameux intermédiaires, des bookers.
Et des ratings.
Et des ratings, absolument. Donc, l'enjeu là, le contenu est devenu vital pour eux. Quand on parle d'e-community, on a plusieurs exemples d'hôtels qui étaient dépendants à 60, 70, 80% des bookers, et qui étaient pris dans les filets. Grâce à l'e-community, ils ont produit du contenu, ce contenu a été animé, a été diffusé partout, et on a inversé la pente pour ces hôtels qui ont regagné leur indépendance.
Est-ce que je peux juste traduire, c'est que donc, quand on recherche, leur site passe en premier ?
Exactement, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'hôtel du Jeu de Paume, qui est un hôtel à Paris sur l'île Saint-Louis, qui a choisi sur le plan stratégique de se positionner sur le territoire de l'art contemporain. On a produit pour eux des contenus sur l'art contemporain qui ont été colonisés le web. L'idée, c'était qu'ensuite, grâce à ces contenus, les gens reviennent vers le blog associé à l'hôtel. L'hôtel a créé des packages chambres art contemporain à Paris et les résultats sont absolument spectaculaires en termes de reconquête des ventes directes par l'hôtel, et même en termes de marge, c'est la première fois depuis que je suis dans ce métier, et malheureusement j'ai quelques cheveux blancs, que je peux dire que pour 1 euro investi dans l'e-community, le client a gagné 3 euros de marge. Donc ça, c'est finalement ce que un patron d'un petit hôtel a pris un risque, qu'aujourd'hui n'importe quel patron de multinationale devrait prendre, et c'est beaucoup moins risqué pour le patron de multinationale que pour le patron de la PME. Simplement, pour le patron de la PME, là, c'était vital. Leurs hôtels seraient en danger s'ils ne prenaient pas le risque de regagner leur indépendance.
Mais quelque part, tous les PDG devraient avoir cette espèce de notion de vitalité, là.
Absolument, c'est pour ça que je suis très optimiste sur les prochains mois, les prochaines années. C'est que je pense qu'avec le durcissement en ce moment, vous prenez l'exemple de l'hôtellerie. Les plus grands groupes hôteliers veulent à la fois tous doubler la part des ventes sur Internet dans les 3 prochaines années et à l'intérieur de ça, doubler la part des ventes directes. On parle de centaines de millions d'euros de résultats en plus ou en moins selon qu'ils vont y arriver. Que doivent-ils faire ? Que doivent-ils faire ? Avoir l'ambition de devenir la première e-community de leur domaine. Pour ça, investir dans le contenu, et ce n'est pas des investissements supplémentaires. Ils doivent avoir le courage de faire des arbitrages budgétaires entre l'argent qui est classique, et même vous prenez l'exemple du e-commerce. Vous prenez des grands e-commerçants ou VPCistes qui mettent des centaines de millions d'euros parfois à la fois dans des catalogues, dans des achats de mots-clés. Que ces gens-là prennent 1 ou 2% de ces sommes, les investissent dans l'e-community et en 6 mois, ils commenceront à voir les résultats. Simplement, ça demande effectivement de la vision et du courage.
Oui, l'idée, c'est de commencer par faire des choix, arrêter un peu sur les autres parce qu'on y va un peu doucement, parce qu'on a peur. Mais en fait, si on voulait être un peu plus rapide, autant faire un peu plus vite. Alors, tu voulais nous donner un autre exemple ?
Oui, le deuxième exemple, c'est un exemple parti d'un média, Les Inrock, bien connu en France. Et Les Inrock voulait faire quelque chose d'innovant autour de la high-tech. Et donc, ils ont travaillé avec l'agence Havas et avec nous sur un concept qui était le premier supplément high-tech 100% digital, puisqu'il y avait un supplément papier uniquement avec des QR codes. Donc, dans le papier, il n'y avait que des QR codes qui renvoyaient vers un site, un mini-site événementiel que nous avons fait, sur lequel on a produit des contenus, fait la techno et fait l'animation. Orange, pour le lancement de la 4G, l'annonce de lancement de la 4G, s'est associé à l'opération qui a eu un résultat vraiment spectaculaire. Pourquoi ? Parce que, un, à la base, cette idée du papier exploité de façon événementielle, le supplément avec que des QR codes, c'était assez spectaculaire. Et ça renvoyait vers le site qui a eu d'excellents résultats, si j'en crois l'interview donnée par l'un des patrons de la stratégie d'Orange qui se félicitait de l'opération en question. Et je crois que c'est vraiment emblématique. On est au cœur de l'e-community. Il faut un concept. Là, en l'occurrence, il est bimédia. Génial. Il faut du contenu de qualité, bien animé, parce que là encore, si tu restes au fond du cours avec un bon contenu de qualité, mais personne ne sait qu'il y a ce contenu, il y a une telle guerre pour gagner de la part d'audience qu'il faut aller pousser les contenus. Et là, c'était bien.
En t'écoutant, l'histoire de faire des suppléments avec le QR code, il y a parfois, je fais en premier et donc je fais bruit parce que je fais quelque chose novateur. Que ce ne soit pas quelque chose qui est super lu derrière, ça c'est encore une autre chose. Donc parfois, on doit faire des choses qui sont de l'ordre de faire du bruit, faire une innovation, montrer qu'on est au devant. Et c'est ça qui traîne aussi du trafic.
Bien sûr, il y a une triple dimension. Quand tu es le plus innovant, ou en tout cas le premier à innover dans un domaine, premier défi, c'est effectivement le buzz. Donc j'ai envie de dire que l'opération in fine marche ou ne marche pas, tu as déjà gagné. Deuxième élément, l'interne. Plus tu prends d'innovation, plus ça marche. Enfin, là-dessus, il y a 400 théories qui ont été faites. Et derrière, en termes de dynamique, celui qui a le fameux first mover advantage a pris ça, va gagner. Donc le problème, c'est que quand tu es le cinquième à faire le même truc, t'as plus l'effet à l'entrée et tu sais pas si tu vas avoir suffisamment l'impact direct. Or, quand tu es en innovation, tu es sûr de gagner. Donc la conclusion par rapport à ça, j'avais assisté il y a quelques années à un séminaire du BCG et quelqu'un était intervenu sur le thème « Dans le doute, ne nous abstenons pas ». Mais c'est exactement ça. Et dans le bordel ambiant, c'est la leçon numéro un. Pourquoi le digital va être le grand vainqueur de l'année 2013 ? Pas le display. L'investissement notamment dans le contenu dans le digital, parce qu'on n'a plus le choix. On est obligé d'être courageux.
Je vais refouler en disant on ne peut pas ne pas perdre en faisant l'innovation. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où on innove trop tôt, on innove mal. Mais en effet, l'idée de se montrer dans l'action, même si ce n'est pas parfait, c'est aujourd'hui, moi, je pense, le moteur clé. Si on va y aller, on va tenter. Oui, on peut, bien entendu, ne pas réussir parce que ben, c'est le pari. Mais juste cet engagement vers
l'avenir vers l'innovation, c'est ça qui est porteur. Alors, je voudrais juste revenir sur un point qui est donc, vous allez chercher à générer l'audience. Aujourd'hui, on sait la quantité de vidéos qui sont mises en ligne, enfin, évidemment, le contenu de façon générale. Quelles sont les astuces que vous employez pour arriver à générer du trafic et générer de l'audience?
Alors, je vais vous livrer un secret, mais ne le répétez pas. Première astuce, il faut avoir un bon concept. Jacques Séguéla disait, l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. C'est ça. S'il n'y a pas un bon concept, surtout, ne faites rien. Deuxième élément, il faut des contenus de qualité. Pourquoi le New York Times a de l'audience? Parce que les contenus sont de qualité. Vous soyez un média ou une marque, vous devez avoir des contenus de qualité. Contenus de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être de qualité média. Ils doivent être bons, ils doivent être percutants, ils doivent être anglais, ils doivent être vérifiés.
Je vais juste repousser, parce que le site numéro un du monde, c'est plutôt Facebook et Google. Et il y a beaucoup de contenu qui n'est pas de qualité. Donc, New York Times, en effet, sur les médias est numéro un. Mais on peut voir que ce n'est pas parce que j'ai des bons contenus que je vais être retrouvé. Donc, comment est-ce que vous faites avec le bon contenu pour que ça passe?
Alors, en l'occurrence, sur Facebook, il y a plein de choses intéressantes.
Bien sûr.
Plein de choses intéressantes. La question, après, c'est pas de savoir si on a un journaliste professionnel ou pas, mais il y a plein de choses intéressantes. Mmh. Et par ailleurs, formidablement animées. Donc après, le troisième point, c'est ça, c'est l'animation. C'est que si vous voulez sortir, il faut qu'il y ait un bon concept, il faut qu'il y ait des contenus de qualité, et il faut qu'il soit bien projeté. Et ça, c'est différentes choses. C'est à la fois un savoir-faire d'animation, c'est un savoir-faire de techno, et puis parallèlement, il y a un gros enjeu de technologie. Nous, on croit beaucoup qu'il faut à la fois en amont technologiser les attentes, mieux comprendre quelles sont les attentes. Par exemple, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Relax Content Affinity, qui consiste à se dire, en matière d'information loisirs, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment? Et d'autre part, je suis une marque. Qu'est-ce qui, par rapport à mon territoire de marque, va intéresser les gens?
Hello, this is Gary Chahot, welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.
Donc, vous faites un peu ce que fait le Mail en Angleterre, c'est-à-dire vous cherchez ce qui est recherché, ensuite vous déposez un contenu en fonction de ce qui est recherché.
On a effectivement un énorme travail sur le sujet. Je pense qu'on a pas mal d'avance. Et donc, on travaille en amont pour technologiser l'attente. Et on travaille aussi en aval pour faire un tracking de l'impact de nos contenus, ce qui est une vraie valeur ajoutée que l'on apporte à nos clients.
Alors, si on parle du contenu, donc il y a l'image, le texte et la vidéo, en gros. Quel est ton point de vue? Enfin, sur quoi il y a plus d'effet levier? Et comment est-ce que vous gérez ça?
En l'occurrence, nous, on croit à l'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une plateforme sur laquelle on trouve des textes systématiquement illustrés de photos, des diaporamas, des vidéos. Pourquoi ça marche? Parce que c'est la combinaison des trois. Mm-hmm. Là aussi, en termes d'expérience utilisateur, d'entendre, tu veux voir qu'une vidéo, tu veux voir qu'un diaporama, mais une bonne vieille dépêche avec un texte bien foutu qui va derrière stimuler une communauté, c'est ça qui est important. C'est que moi, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer la qualité média et la communauté. Au contraire, le principe, c'est que la qualité média doit stimuler une communauté qui, par ailleurs, peut avoir un talent fou ou pour amplifier une information ou pour la contester. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est que notamment, je pense que le boulot de gens comme nous, c'est d'apporter une information globale sur un sujet. Et après, je pense que les communautés vont faire le boulot de localisation.
Quand vous publiez, quel est ton point de vue sur mettre des liens sortants?
Moi, je pense que là comme ailleurs, il faut avoir confiance en soi. Et que donc, pour moi, c'est le plus gros signe de confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur de mettre des liens sortants. De mémoire, l'Albanie, qui avait une stratégie fermée, n'est pas devenue une grande puissance. Les grandes puissances, toujours, sont les puissances les plus ouvertes.
Chine. Alors, tu es face à un client, enfin un PDG.
L'internet chinois est beaucoup plus ouvert que tu le penses. Pourquoi est-ce que les Chinois ont fermé l'accès à l'internet extérieur? Pour deux raisons. Sûrement une raison politique, naturellement. Quoique j'étais récemment en Chine, lors des émeutes Japon-Chine, le phénomène le plus important, c'est le microblogging. Les Chinois étaient tous dans la rue, et donc je peux te dire que ce n'est pas de l'extérieur que ça bougera, c'est de l'intérieur. Mmh. Mais par ailleurs, les Chinois ont fait ça pourquoi? Pour générer une industrie Internet majeure. Et c'est le cas. Je vais en Chine assez souvent. Là, j'étais récemment, on était sélectionné pour le French Tech Tour, une sélection des PME les plus innovantes. Mmh. Par rapport à il y a deux ans, la grande différence, c'est que maintenant, toutes les boîtes que j'ai rencontrées, des boîtes de e-commerce, de techno ou autres, te disent, dans 10 ans, on sera leader mondial. J'ai rencontré le patron international de Baidu, qui t'explique que ça prendra du temps, mais qui finira par mettre une rouste à Google. Et ils ont, en termes d'innovation, des choses extrêmement intéressantes. Donc ne voyons pas le mur chinois seulement comme une protection politique, c'est le cas, mais aussi comme le fait que c'était aussi une protection pour eux pour générer beaucoup d'innovations. Ils sont très forts et on va le voir.
En effet. Je suis sûr que ça va être intéressant, la bagarre entre QQ, Tencent, Twitter, etc. Alors, donc maintenant, juste, tu es en train de parler avec un PDG de ton produit Relax News. Et quels sont les arguments qui font mouche?
Alors, si je parle à un PDG, je vais lui dire quelque chose qu'il comprend très bien. C'est qu'il a un problème de création de valeur, il a un problème de marge et il a un problème de transformation de sa boîte. L'e-community, c'est un levier sur ces trois choses-là. Mmh. Effectivement, il faut transformer les boîtes. Tu prends l'exemple de la FNAC. Moi, si j'étais patron de la FNAC, j'axerais mon discours d'introduction en bourse sur ça, sur le fait que la FNAC a tout pour être la première e-community, en tout cas en France, dans son domaine. Crédibilité fantastique, historiquement en termes de contenu, culturel, ils ont les produits, ils ont un réseau physique formidable et ils ont un potentiel en e-community génial. Donc si on prend l'exemple de la FNAC, si Alexandre Bompard m'écoute, c'est un message pour lui. Alexandre, orientez votre discours d'IPO sur le fait que vous avez un levier de croissance du chiffre d'affaires et surtout de la profitabilité en allant au bout de la transformation que vous êtes en train de faire, en faisant de la FNAC la première e-community française en matière de biens culturels. Et vous allez réussir.
Et moi, je pense qu'en fait, toutes les marques pourront trouver des lieux avec plus ou moins de force, certes, parce que l'ère historique, mais c'est à trouver. Alors, bon, il y a aussi d'autres qui sont réfractaires encore sur ces content marketing et tous ces autres trucs dont je préfère vendre mon produit. Qu'est-ce que tu vois comme étant les plus grands freins pour aller vers cette nouvelle ère plutôt content marketing, j'appellerais ça, enfin e-community.
Écoute, d'abord, il y a quelques années, j'avais vu une œuvre absolument formidable. C'était une œuvre intitulée « Le cimetière des marques ». Et dans le cimetière des marques, tu voyais un certain nombre de tombes.
Il y en a beaucoup.
Voilà. Donc, la première chose, c'est n'oublions jamais que le cimetière des marques est rempli de dirigeants qui n'ont pas vu arriver les évolutions et qui en sont morts. Petit 1. Petit 2, ce que je crois, c'est qu'il y a des opportunités absolument formidables à saisir. L'une des difficultés, c'est que je pense que notamment que les groupes de communication n'ont pas du tout assez bien intégré le contenu comme levier stratégique. Ils en font un élément marginal. Et donc, nous, au départ, on travaillait pas mal avec des agences. On continue à le faire. Mais aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des marques en direct parce qu'on convainc les dirigeants que l'e-community est un enjeu stratégique, un enjeu de transformation de la boîte. Et l'un des problèmes des grandes entreprises, c'est que souvent, elles ne sont pas accompagnées par des conseils qui ont vu ça. Ils sont accompagnés par des vieux conseils. Or, le contenu doit être au centre de tout, le concept de contenu. Après, évidemment, il y a du média pour populariser tout ça. Mais la règle aujourd'hui, on passe de l'advertising au contentizing. L'advertising, tu avais un concept, tu faisais de la pub, tu touchais le consommateur, et éventuellement, tu discutais à la fin. C'était vertical. C'est fini. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est totalement horizontal. Il y a le contenu, il y a un concept, il y a du contenu. Tu touches tes clients. Et éventuellement, si tu veux maîtriser le discours, tu vas bombarder en pub. Mais donc, il y a un changement de paradigme absolument total. Et par rapport à ça, je pense que les groupes de communication ont pris conscience tardivement de ça. Et nous, on a l'ambition d'être une agence de presse nouvelle génération. On revendique le fait d'être des producteurs de contenu. On revendique d'avoir une racine média. On revendique ça. Et en même temps, on pense qu'on fait partie du petit club des mieux placés pour faire triompher cette idée que le contenu est roi.
Alors, je reviens sur l'idée d'en fait. Si je comprends ce que tu dis, c'est sur les médias en France. Parce qu'enfin, il y a d'autres où c'est un phénomène international pour toi. Parce que on est ici à Paris. Et deuxièmement, quel est ton point de vue sur combien la politique, les personnes qui sont en charge, aussi en contribuent, oui ou non, à cette. D'éviter la tombe ou pas?
D'abord, le phénomène dont je parle, de l'oisiration d'e-community, est tout sauf français. Il est mondial.
Non, mais par rapport aux médias qui ont fait le tournant, parce que tu parlais de boîtes qui n'ont pas fait eux-mêmes la bonne évangélisation, quelque part, ou la tournure. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres?
Mais en l'occurrence, McKinsey cite le groupe Le Figaro comme l'un des exemples les plus réussis de virage pris en Europe. Donc je pense que le débat n'est pas France ou pas France. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène mondial. Comme toujours, il y en a qui voient le truc et qui le font, d'autres qui sont debout sur le frein. Et simplement, ce qui va se passer, c'est que 2013 va être une année extrêmement dure. Et là encore, dans le doute, ne nous abstenons pas, les mous perdront. Voilà, la mollesse perdra, ça c'est absolument certain. Après, par rapport au contexte politique, moi je considère que par rapport à ça, il y a à la fois des éléments d'abord de psychologie. Et j'étais hier à l'Assemblée nationale, puisque Renaissance Numérique organisait un colloque en présence de la ministre Fleur Pellerin sur le numérique, outil de levier de crise. Et je pense que la bonne nouvelle dans le bordel ambiant, c'est ça. C'est que comme on n'a plus les moyens de faire trop de choses, on va se concentrer sur ce qui marche et il va y avoir une accélération, à mon avis, spectaculaire du digital sous toutes ses formes. Ce qu'on attend des politiques par rapport à ça, c'est uniquement, là comme ailleurs, de créer les conditions. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que la France a beaucoup, beaucoup d'atouts pour générer des champions du monde en matière de numérique. Égoïstement, nous, on a l'ambition de devenir le leader mondial de l'information loisir pour une raison très simple. C'est que la France, le leader mondial d'info financière, il ne sera jamais français. Comme par hasard, c'est Bloomberg à New York, c'est Reuters avec la City. Mais s'il y a un domaine dans lequel une agence française peut, et moi je rajoute doit, être le leader mondial, c'est bien l'information loisir. On nous reconnaît dans le monde entier là-dessus. Et là comme ailleurs, c'est comme au rugby, il faut capitaliser sur tes forces. C'est une bonne mêlée, tu t'appuies là-dessus. Oui. Là c'est pareil, nous c'est le French Flair. Et le but c'est de mettre des essais de 100 mètres.
Excellent, j'adore ça, mais autant étant parlant du rugby. Alors écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ça. Ça a beaucoup de bon sens. Et j'appuie beaucoup le concept, bien entendu. Je suis ravi de parler avec toi. Si quelqu'un a envie de comprendre un peu mieux, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les personnes qui sont intéressées par Relax News en lui-même ou peut-être d'autres choses qui sont des articles ou des sites que tu aimes faire référence qui font bouger les esprits?
Bizarrement, dans les choses qui font bouger les esprits, je vais te citer non pas un site, mais une revue. Excellent. Le bon vieux papier. Il y a une revue qui s'appelle 21, qui existe en France, qui est en train de se développer au niveau international, qui était fondée par, à mon avis, l'un des hommes les plus brillants concepteurs d'idées en matière de médias, qui s'appelle Laurent Beccaria. 21, c'est quoi? C'est un bras d'honneur à tout ce que les gens disent. C'est cher, c'est vendu en librairie, sont des papiers extrêmement longs et c'est pas financé par la pub. Donc sur le papier, tu dis ce truc-là, ça marchera jamais. Ben, bras d'honneur, tout ce que les gens disent, ça fait un carton. Donc là, comme ailleurs, l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. C'est le moment de tous se remettre en cause. Et d'ailleurs, je crois tellement à tout ça et j'en ai tellement marre que les gens se plaignent en permanence. Je suis en train de préparer un manifeste qui s'appelle le manifeste des pourfendeurs du mort in France, qui est intitulé « Dans le doute, ne nous abstenons pas ». Parce que regarde le nombre de fois pendant la journée où on te dit « bon courage ».
Oui, style, t'as pas de chance, il n'y a aucune moyen.
Enfin, voilà. Donc, un, lisez 21, et deux, faites une chose, arrêtez de dire « bon courage ». sauf dans des cas très particuliers, et les seuls qui s'appliquent, c'est les cas de santé. Sur le reste, trouvez autre chose, dites « let's relax », mais arrêtez de dire « bon courage, bordel ».
Oui, je suis totalement d'accord, je dis « get to it, get action ». Alors, si quelqu'un a envie d'être en action, Jérôme, comment on peut te contacter et te suivre ?
Mon mail, c'est jdoncieux, J-D-O-N-C-I-E-U-X, comme un don des cieux, si vous me permettez l'expression, @relaxnews.com. On a des bureaux très sympathiques le long du canal Saint-Martin. Et donc, je serais ravi de vous voir. Et puis, si vous êtes dans un autre endroit du monde, j'ai la chance d'être petit, de voyager très bien en classe économique, de me passer un gros quart de mon temps dans les avions. Donc, dites-moi où vous êtes et on se verra.
Jérôme, je te remercie beaucoup. Au plaisir de te suivre.
Merci infiniment.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
Coming up on 5-Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5-Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.